France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Mercredi 2 octobre, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la marche de la colère des policiers. 15 à 20 000 manifestants, tout corps, tout grade confondus. Attendus dans les rues de Paris, les policiers disent manquer de moyens, de considération, de temps. Témoignage dans le journal après les autres titres.
La liste des produits de l'usine Lubrizol révélée hier soir. La nouvelle proposition de Boris Johnson pour parvenir à un Brexit à la fin du mois. Une campagne de prévention contre les agressions sexuelles durant les week-ends d'intégration étudiants et l'immigration vue du Sénégal avec le très beau film de Mati Diop, Atlantique, qui sort aujourd'hui.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Il raconte 40 ans de vie politique et personnelle dans Tribun du Peuple, tome 2 de ses mémoires, de la création de son parti, le Front National, à la succession difficile de sa fille Marine. Jean-Marie Le Pen sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure. 8h20, le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
France Inter. Une marche de la colère, de Bastille à République. Les mots sont forts, les lieux symboliques pour exprimer un malaise policier qui monte depuis un an, depuis la crise des gilets jaunes et les mobilisations à répétition le week-end. Les policiers dénoncent pêle-mêle les conditions de travail dans des commissariats insalubres, des millions d'heures supplémentaires non payées, un manque de reconnaissance et une menace sur l'actuel régime de retraite. Un malaise qui se traduit par une hausse du nombre des suicides, 50 depuis le début de l'année. Valentin Dunat a rencontré Franck, policier dans l'Essonne.
Franck travaille dans le même commissariat depuis 17 ans. Il a travaillé à la BAC, il est désormais enquêteur. À son arrivée, ils étaient 150, ils ne sont plus que 80. Il y a donc un manque criant de moyens humains qui crée un mal-être au travail.
Le mal-être, effectivement, le mal-être, c'est comme il s'est passé dans un des commissariats donc de l'Essonne. C'est par exemple une vingtaine de fonctionnaires qui se sont retrouvés en congé maladie, non pas par complaisance, comme beaucoup aimeraient le dire, mais vraiment parce que les collègues sont à bout, les collègues effectuent un travail qui, tous les jours, leur pompe le peu d'énergie qui leur reste. Et cette sensation se transmet également à la maison. Donc, quand on a une épouse qui, en rentrant le soir, vous dit « Arrête de me parler de ton travail, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es pas comme d'habitude. » Voilà, on dit qu'on commence à perdre pied et à un moment donné, il est temps justement qu'on se repose.
Le manque d'effectifs n'est pas le seul problème, selon Franck. Pour lui et nombre de ses collègues, la police est depuis trop longtemps gérée comme une société privée avec une hiérarchie qui ne pense qu'à faire du chiffre.
On va se retrouver en fait avec des commissaires qui, eux, vont toucher des primes dans les services allant jusqu'à 20 000 euros. Ce travail n'est plus de la qualité, mais ça devient de la quantité, de l'abattage en fait.
Franck n'ira pas manifester aujourd'hui, il ne peut pas. Service minimum oblige.
Mais la participation s'annonce importante. 15 à 20 000 manifestants attendus à l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de 20 ans. 5 253 tonnes de produits chimiques ont brûlé mercredi dans l'entrepôt de l'usine Lubrizol à Rouen. La liste a été rendue publique dans la soirée. 60% sont des additifs multi-usages. Mais on trouve également des dispersants, des détergents et des solvants. Alors sont-ils dangereux pour la santé des habitants? C'est toute la question posée hier soir par 2000 manifestants, alors que persiste une odeur d'œuf pourri et d'hydrocarbures. Se pose aussi, Mathilde Dehémy, la question du contrôle des usines classées Seveso. Des contrôles effectués par la DREAL, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et de Logement de Normandie.
Cet inspecteur d'une DREAL spécialisée dans les sites Seveso l'affirme. Les usines les plus à risque sont contrôlées au moins une fois par an, jusque 6 quand la situation l'exige. Les sites classés Seveso, seuil haut, sont mieux surveillés qu'avant, dit-il, avec un meilleur suivi pour les risques d'accident, mais aussi pour les rejets sur du long terme dans l'air et l'eau. Reste qu'il y a des trous dans la raquette, reconnaît un syndicaliste. La CGT pointe un manque de moyens humains et matériels, y compris des voitures pour faire les inspections, rappelant l'application successive des réformes de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux et de la fusion des régions. Des réformes complètent la CFDT UFETAM qui pèse aussi sur le temps de travail des agents. Plus d'administratifs, moins de temps pour les contrôles. Les deux syndicats s'inquiètent aussi du périmètre de plus en plus large donné aux préfets pour procéder à des autorisations sans avis des services d'environnement de l'État. Une image a marqué les inspecteurs. Le premier à se rendre à Rouen pour parler des risques toxiques était le ministre de l'Intérieur et non celle de la transition écologique.
France Inter.fr a également démêlé le vrai vrai du faux sur les réseaux sociaux. Et puis nous en parlerons bien sûr à 8h20 avec l'invité du grand entretien de la matinale, la ministre de la Santé. La Santé, encore, avec cet appel lancé par une centaine de personnalités pour sauver l'hôpital public. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État et relayée par Le Parisien aujourd'hui en France, Véronique Sanson, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi ou encore Vincent Lindon réclament un véritable plan d'urgence. L'écrivaine Marie Desplechin a également signé le texte. Elle explique pourquoi à Jérôme Jadot.
Je suis depuis des mois maintenant la situation du personnel hospitalier, des gens qui se mettent en grève, la dégradation des conditions d'accueil sur les soins et le fait que ça bouge pas du tout en fait. Or, c'est des gens qui travaillent pour nous, l'hôpital, on y va tous, on a tous besoin d'eux. C'est une infirmière qui a pris le temps une nuit de vous tenir la main quand vous pensiez que vous alliez claquer. C'est une aide-soignante qui vous prend dans les bras quand vous avez un proche à l'hôpital qui va très mal. C'est pas une abstraction. C'est quelque chose de quasiment familial et je me sens complètement désemparée et super en colère de voir à quel point on peut laisser la situation se dégrader.
L'écrivaine Marie Desplechin. C'est un premier rapport sur la suppression de l'ISF et son remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière. La réforme aurait bénéficié aux 5% des ménages les plus riches avec un gain estimé à 6 500 € par an. Et si la réforme n'a pas fait revenir les exilés fiscaux, elle aurait permis d'éviter de nouveaux départs. 750 départs en 2016, 400 en 2017. À 91 ans, Jean-Marie Le Pen continue de distribuer les bons et les mauvais points dans le tome 2 de ses mémoires, Tribun du peuple en librairie aujourd'hui. 490 pages pour retracer son parcours de la création du Front National en 1972 à aujourd'hui. Il dresse également un portrait peu flatteur de sa fille Marine, à qui il n'a visiblement pas su donner les clés de la confiance en soi. Maxence Lambrec.
Elle a certaines qualités pour faire de la politique. Du cran, de l'allant, de la répartie, reconnaît Jean-Marie Le Pen. Mais elle n'a pas confiance en elle. Cela explique ses fautes, son côté dictatorial. Venant de son père, l'attaque est sanglante, il soulève un coin du voile. Marine Le Pen n'aurait pas confiance en elle, certains de ses proches le reconnaissent. Aujourd'hui, elle doit prendre de l'assurance, de la hauteur, et ce n'est pas en bachotant qu'elle y arrivera, complète son père, qui revient sur son échec à la présidentielle, dû selon lui à l'histoire de la double monnaie, l'ouverture à gauche, la stupide dédiabolisation, et une campagne marathon dans des villes moyennes. Elle arrive au débat crevée et a dû se shooter à un euphorisant quelconque, avec un bon débat, écrit-il, et une catastrophe terroriste la semaine avant le scrutin. Elle aurait peut-être pu gagner, mais pourquoi faire ? S'interroge Jean-Marie Le Pen. Avec quel état-major et quelle relation avec l'administration, l'industrie, la banque, la police, l'armée, l'église ? Le Front National, c'est l'une de ses grandes faiblesses et dramatiquement seul, l'échec de Marine fut peut-être providentiel. Sous-entendu, cela aurait été une catastrophe.
Jean-Marie Le Pen qui sera l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 8h10.
Il est 7h08, Agnès. Ultime tentative de négociation à Bruxelles sur le Brexit.
À un mois de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, Boris Johnson va faire de nouvelles propositions. Des propositions, Antoine Gignot, qui sont déjà en partie sorties dans la presse.
C'est un compromis juste et raisonnable, explique le porte-parole du Premier ministre, et c'est à prendre ou à laisser. Si Bruxelles rejette le plan, pas question de reporter le Brexit au-delà du 31 octobre. Cette nouvelle proposition permet donc d'abord à Boris Johnson d'afficher face aux militants conservateurs sa bonne volonté. L'objectif n'a pas changé, il s'agit d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, censée quitter l'Union européenne, et la République d'Irlande, qui va continuer d'en faire partie. Le gouvernement britannique propose de laisser le nord de l'île aligné sur les réglementations européennes jusqu'en 2025. Belfast et sa région auraient donc un statut légèrement différent du reste du pays. Les produits seraient examinés par les douaniers en mer d'Irlande, avec en parallèle un contrôle des voyageurs grâce à des moyens high-tech qui restent à définir. Des solutions très proches de celles qui ont déjà été évoquées l'an dernier et rejetées l'une après l'autre par les unionistes irlandais et les responsables européens. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Hier, la Corée du Nord a annoncé la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire avec les États-Unis. Et aujourd'hui, Pyongyang tire des projectiles en direction de la mer du Japon. L'un d'eux serait même tombé dans la zone économique exclusive du Japon, selon Tokyo. Retour en France avec le lancement aujourd'hui d'une campagne de prévention sur Internet et les réseaux sociaux pour mettre en garde les étudiantes, notamment sur les dérives lors des week-ends d'intégration dans les grandes écoles et les universités. Le bizutage est interdit depuis plus de 20 ans, mais la pratique persiste et donne lieu à de nombreuses agressions. Yann Gallic.
On les appelle les week-ends ou les semaines d'intégration. Ces rituels étudiants censés être festifs peuvent virer au cauchemar pour celles et ceux qui en sont victimes.
Tu perds, tu montres tes seins, m'a expliqué Paul. J'ai perdu. J'ai montré mes seins. J'avais honte.
Des bizutages parfois dangereux et humiliants pouvant aller jusqu'au viol. À travers une série de vidéos, cette campagne de prévention appelle à rompre le silence. Emmanuelle Piette est médecin et présidente du collectif féministe contre le viol.
Moi, j'ai soigné un certain nombre de victimes de viol pendant les week-ends d'intégration. Elles parlent quelquefois après les études. Mais vous vous rendez compte que quand vous avez été victime pendant un week-end d'intégration, vous allez voir l'agresseur et les agresseurs pendant toute votre scolarité. C'est compliqué de porter plainte.
Interdit depuis 1998, le bizutage est un délit puni par la loi. Pourtant, cette pratique perdure et elle est encore trop souvent minimisée par les responsables des grandes écoles et des universités.
La plupart du temps, les écoles répondent, ils sont majeurs, et c'est vrai, les étudiants sont majeurs. Ça ne se passe pas dans nos murs, c'est quand même leurs étudiants. Donc je pense que les écoles sont responsables et elles devraient commencer à prendre la chose vraiment en compte.
Même si le sujet reste tabou, le collectif féministe contre le viol a recueilli depuis 2014 près d'une centaine de témoignages de victimes, dont 49 ont été violées lors d'une soirée étudiante ou d'un week-end d'intégration.
Se méfier d'un adversaire qui semble à portée d'essai, le 15 de France joue ce matin au Japon son deuxième match de Coupe du Monde de rugby face aux États-Unis, coup d'envoi à 9h45. Et puis en Ligue des Champions, c'est du football, le PSG fait fi du climat hostile et s'impose 1-0 sur le terrain de Galatasaray. Ce soir, l'OL joue à Leipzig et Lille reçoit Chelsea.
Et on termine, Agnès, avec ce film qui a bouleversé la croisette en mai dernier, remporté le Grand Prix du jury.
Atlantique de Mati Diop sort aujourd'hui sur les écrans. C'est un film sur l'immigration, vue et vécue du Sénégal. La cinéaste de 37 ans raconte une histoire personnelle avec une forme très singulière, un souffle qui fond la force du film, Eva Béton.
Non, ils n'étaient pas que des nombres, ils étaient des hommes, des très jeunes hommes, des fiancés, des fils, des frères partis en mer, peut-être déjà engloutis par elle, tentés d'atteindre l'Europe. Mati Diop s'est inspiré d'une vague d'émigration massive qui a eu lieu au Sénégal il y a quelques années.
Beaucoup de jeunes garçons partaient en mer d'un moment à l'autre sans prévenir leurs proches parce que culturellement c'est comme ça que ça se passe. Ça m'avait beaucoup marqué la manière dont ces femmes découvraient ça, cette espèce de dimension comme ça virale. Il y a des quartiers par exemple à Dakar où on ne pouvait plus constituer d'équipe de foot tellement la plupart des jeunes garçons étaient partis.
C'est un film de fantômes. Mati Diop fait sentir la dignité des absents par la trace qu'il laisse sur les vivants. La mer, mirage et tombeau est filmée de manière quasi fantastique.
On a filmé l'océan lorsqu'il était dans une lumière qui rend l'océan comme une autre planète. C'est aussi une manière de placer le spectateur face à ce mystère-là. Parce qu'on aura beau expliquer de manière économique pourquoi ces jeunes sont partis, qu'est-ce qu'ils essayaient d'atteindre. Le moment où un jeune homme décide de se jeter dans cette immensité, on ne saura jamais en fait.
Par moments, le seul moyen d'être audible, c'est la poésie.
Atlantique de Mati Diop sort aujourd'hui au cinéma.
Merci Agnès Soubiran. Dans